Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et bienvenue dans Géopolitique, que vous pouvez également écouter en podcast. Dans quelques jours, l'investiture de Donald Trump, ce sera le 20 janvier à Washington. Son retour à la Maison-Blanche est largement susceptible de bouleverser des équilibres mondiaux déjà bien fragiles. Trump va-t-il affaiblir ou au contraire renforcer le leadership américain? Doit-on s'attendre à la confrontation du siècle entre la Chine et les États-Unis? Sait-on ce que l'Amérique réserve aux relations américano-chinoises? Qu'est-ce qui s'impose à l'Europe avec l'arrivée de Donald Trump? L'issue du conflit en Ukraine est la grande inconnue. La Pologne a pris la présidence de l'Union européenne le 1er janvier. C'est donc à elle que reviendra la tâche de tenter de nouer des relations avec le nouveau locataire de la Maison-Blanche. Une lourde tâche alors que l'Europe est affaiblie, divisée, que la France et l'Allemagne sont minées par l'instabilité politique et que dans la période entre son élection et l'investiture des Européens, seule l'Italienne, Giorgia Meloni, a été reçue par Donald Trump. Notre invité est Nicole Niesoto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors et professeur émérite au CNAM. Son dernier ouvrage, Choisir l'avenir, 10 réponses sur le monde qui vient, aux éditions du CNRS. Bonjour Nicole Niesoto.
Bonjour.
Cette semaine, Donald Trump a réitéré l'idée d'une expansion américaine. Est-ce qu'il s'agit d'un fantasme géopolitique ou d'une réalité en devenir? En tout cas, cette expansion, elle concernerait le canal de Panama, le Canada et le Groenland. Sur fond de doléances, d'après Trump, l'Amérique serait victime de sa générosité, de sa naïveté. Qu'est-ce que cela vous inspire? Qu'est-ce que cela nous dit de la façon dont Trump voit le monde, Nicole Niesoto? Un espace sur lequel les États-Unis ont tout pouvoir et autorité?
Oui, moi je pense qu'il faut prendre ces déclarations au sérieux. Ce ne sont pas seulement des espèces de provocations d'un Donald Trump qu'on sait être provocateur et sans aucune limite. Je pense qu'il faut les prendre au sérieux parce que ça correspond à un moment de la puissance américaine qui est révisionniste. On avait l'habitude de dire que Poutine était révisionniste de l'ordre européen, que Xi Jinping était révisionniste de l'ordre asiatique. Je crois que
vous nous précisez la définition de révisionniste.
Révisionniste, c'est simplement. Alors, ça n'est pas la définition qu'on a le coutume d'avoir quand on parle notamment de la Shoah et de la remise en cause de l'existence même de la Shoah. Révisionniste, c'est au sens où vouloir changer les règles établies de l'ordre. Alors, Poutine est révisionniste de l'ordre européen. Il n'admet pas les règles établies de l'ordre européen depuis 1945. Xi Jinping est révisionniste de l'ordre asiatique. Il n'admet pas la présence américaine en Asie. Il veut revoir cet ordre asiatique. Mais il se trouve que Trump est révisionniste de l'ordre mondial. C'est-à-dire qu'il arrive dans un monde qui ne lui convient pas. En tout cas, qui ne convient pas à ce qu'il pense être la puissance américaine. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut prendre ses déclarations au sérieux, même s'il n'est pas évident qu'il attaque militairement le Groenland, le Canada ou le Panama, mais il faut quand même prendre au sérieux parce que ça dénote, je crois, une vision très simpliste du monde comme étant une espèce d'un grand marché où le plus puissant prend ce dont il a le plus besoin et il commence par ses alliés. Ce qui est très intéressant, je crois, dans la vision de Trump, c'est on agrandit d'abord la puissance américaine en puisant chez nos alliés ce dont on a besoin, donc le Groenland, le Canada, le Panama, qui est un allié puisque l'ensemble de l'Amérique latine est zone d'influence américaine. Et ensuite, une fois que cette puissance américaine sera établie sur toutes ses dimensions, on pourra ou pas regarder les puissances adverses, c'est-à-dire la Russie et la Chine. Je pense que c'est une première étape de consolidation de la puissance américaine sur la base d'un mépris absolu et donc d'une révision absolue de tout ce qui a fait l'ordre mondial depuis 1945, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire le droit international, c'est-à-dire la souveraineté des États, le non-règlement des différends par la force et la remise en cause, éventuellement par la force, des frontières, puisqu'il n'a pas exclu d'exclure la force pour s'approprier le Groenland. Donc, même s'il ne passe pas à l'action, le simple fait que ce discours soit tenu par la première puissance du monde, qui, entre parenthèses, n'est plus du tout à classer dans les puissances démocratiques, puisque tout ce que fait Trump détruit les fondements même de la démocratie. Mais le simple fait que ce soit prononcé par le futur dirigeant de la première puissance du monde change les règles et donne à penser aux autres grandes puissances, notamment la Russie et la Chine. Et je ne suis pas sûr que ces deux-là soient très contents de voir légitimer par l'Amérique un droit à l'expansion territoriale sans limite.
Et pourtant, on peut se dire, mais parlons-en tout de suite, je pensais mettre ça plus tard dans l'émission, on peut se dire que c'est apporter aux Chinois Xi Jinping quelque chose sur un plateau. On pense évidemment à Taïwan. Donc si finalement Trump dit qu'il va annexer le Groenland, reprendre le canal de Panama, eh ben Taïwan, les Chinois se diront, oui, on y va aussi.
Absolument. Non, ça c'est... Mais il était clair dans le discours de candidat de Donald Trump que la défense de la démocratie n'était pas sa tasse de thé. Il n'a, à la différence de Joe Biden et toute l'administration démocrate qui disait qu'on pouvait aller éventuellement en guerre pour défendre Taïwan si Taïwan était attaqué, Donald Trump n'a jamais prononcé le mot de défense de la démocratie. Ce qui l'intéresse, qui pourrait l'intéresser à Taïwan, c'est les semi-conducteurs, toutes choses dont a besoin l'industrie américaine. Mais donc oui, là, c'est un cadeau fait aux Chinois en disant, bah, écoutez, chacun peut prendre ce qu'il veut pour consolider sa propre zone d'influence. Mais dans un deuxième temps, moi, si j'étais Xi Jinping, et si le droit à l'expansion territoriale de voisinage, parce que c'est un peu ça, pour l'instant, il ne prend que ce qui est dans ses alliés, c'est le voisinage allié. Si le droit à l'expansion territoriale du voisinage devient la règle de l'ordre mondial, alors moi, j'aurais peur parce que j'ai un voisinage également très proche avec l'Amérique du côté du Pacifique, j'ai un voisinage avec la Russie, j'ai un voisinage avec l'Inde qui est contesté depuis toujours. Et donc, c'est pour ça que je disais, je ne suis pas sûr que Poutine et Xi Jinping s'en satisfaisent vraiment de ces propos américains, parce que de même pour la Russie, si demain Poutine dit, mais après tout, il y a des choses, la mer de Barents, ça m'intéresse, maintenant que l'Arctique va fondre, que les richesses minières vont apparaître au pôle Nord, je vais m'approprier l'ensemble du pôle Nord. Donc c'est à double tranchant, si je puis dire. À court terme, oui, on peut dire que pour les Chinois, c'est pain béni sur Taïwan. Mais moi, je n'ai jamais eu la moindre illusion sur le fait que Donald Trump défendrait Taïwan. Je crois que c'est la démocratie, c'est vraiment le dernier de ses soucis. Mais en même temps, je pense qu'il y a quand même un ferment d'inquiétude. Les Chinois sont très attachés à l'ordre mondial. Ils ont besoin d'une prévisibilité dans le système international parce qu'ils ont besoin d'une prospérité économique qui, pour eux, est vitale, non seulement sur le plan économique, mais sur le plan politique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que la Chine s'enrichisse pour que le communisme demeure. C'est le paradoxe de la Chine. Et donc, les Chinois sont très attachés à l'ordre international. Et donc, je ne suis pas sûre qu'ils apprécient comme ça, très vite, une Amérique qui est prête à donner un coup de pied dans la fourmilière sur absolument tous les points de vue. Parce qu'il faut bien voir que Donald Trump attaque là la géopolitique traditionnelle. Mais il a fait d'avant, il y a quelques semaines, il parlait de mettre des droits de douane de 100% sur certains produits chinois, de 25% sur certains produits européens. Donc, il attaque aussi le libéralisme économique, de même qu'il a déjà décidé de sortir de nouveau, je crois, de l'OMS, et qu'il attaque aussi le multilatéralisme qui était le béaba de la gouvernance mondiale. Donc, la remise en cause, la disruption, si on peut employer ce mot qui n'existe pas en français, par Donald Trump, elle est globale. C'est vraiment une révision de l'ordre mondial. Et ça pose quand même une question sur la rationalité de ce personnage. Au-delà, ça pose des questions sur l'évolution de notre monde. Comment a-t-on pu en arriver là? Mais ça pose aussi une question sur le personnage lui-même. Il me fait penser, moi, à ce qu'on lisait sur Caligula, qui avait décidé un jour de nommer son cheval consul. Eh bien, je pense qu'il est capable de faire la même chose. C'est-à-dire qu'il est dans une telle hubris de puissance qu'il est capable de nommer son cheval secrétaire d'État.
Alors, il n'est pas seul dans cette hubris. Oui. Il y a à ses côtés Elon Musk. Alors, il n'a pas encore... On va en reparler un tout petit peu plus tard. Il n'a pas encore pris ses fonctions, Donald Trump, ce sera le 20 janvier. Tout de même, ce à quoi on assiste depuis l'élection de novembre, c'est que depuis la Floride, Donald Trump a reçu les grands de ce monde, on l'a évoqué. Il est déjà aux manettes, pour ainsi dire. Alors, je reviens. Donc, Trump révisionniste, on le pensait isolationniste, finalement, il est expansionniste. Et il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à tout ça. On le voit dans une logique d'extorsion. Nicole Niesoto, de prédation en tout cas. Qu'est-ce qui peut arrêter Donald Trump?
Alors, juste un mot déjà. Il est isolationniste, enfin, il est expansionniste dans son camp. Je répète, ce qui est très important, c'est qu'il veut prendre des morceaux de ses alliés. ça n'empêcherait pas qu'il soit isolationniste par rapport aux crises extérieures. Il n'a absolument pas envie d'aller perdre du temps, des soldats, de l'énergie pour s'occuper, je ne sais pas moi, du Timor oriental ou de l'Afrique ou et peut-être une exception sur Israël. Mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut être expansionniste dans son camp et isolationniste pour le malheur des autres. Ça, c'est la première chose. Maintenant, ce qui peut arrêter Donald Trump, c'est vraiment la question à 1000 dollars. Parce qu'actuellement, mais peut-être qu'on en reparlera tout le temps, quand on regarde les réactions de la communauté internationale, on peut plutôt se dire que rien ne peut l'arrêter. Les réactions sont minimales. Il n'y a même pas eu une déclaration du secrétaire général des Nations Unies pour rappeler le droit international. Il n'y a rien. Et donc, il y a quelques chefs d'État qui ont réagi, dont le nôtre, Emmanuel Macron, le chancelier allemand. Mais ça reste, évidemment, le gouvernement danois, parce qu'il est remis en cause, les Canadiens, etc. Mais ça reste quand même, au niveau mondial, un silence qui est quand même assourdissant.
C'est un état de sidération ?
Je crois que c'est un état de sidération, mais dans les deux sens du terme. C'est-à-dire sidération, parce qu'on se dit, mais c'est pas possible, je rêve. On a une espèce de surprise mondiale qui vous rend totalement impuissant dans la réaction. Et puis, c'est aussi, je crois, à la fois la sidération de la surprise et puis la sidération de la panique. Les gens se disent, mais effectivement, la question que vous posez, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Or, si on en reste aux États-Unis, les contre-pouvoirs américains aujourd'hui sont également très silencieux. D'ailleurs, quels sont les contre-pouvoirs aujourd'hui aux États-Unis ? Ils possèdent le Congrès, l'ensemble du Congrès, la Chambre des représentants, le Sénat. La presse américaine pourrait, effectivement, une partie de la presse américaine pourrait...
La presse traditionnelle,
oui, la presse de l'ancien monde. La presse de l'ancien monde, parce que pour ce qui est des réseaux sociaux, c'est l'inverse. On a vu encore, il y a quelques jours, que Mark Zuckerberg lui-même, qui était le rival d'Elon Musk sur les réseaux sociaux, s'est plié à la règle de la liberté totale, la philosophie libertarienne, liberté totale d'expression, donc suppression des contrôles de la vérité de ce qui se met sur ces réseaux. Donc, moi, je suis très inquiète, encore une fois, d'une part par les déclarations et d'autre part par le fait que les contre-feux, à ce stade en tout cas, on ne les voit pas. Et ce qu'on pourrait voir venir, à mon avis, sont des contre-feux qui remettrait aussi en cause le système international. Je veux dire, on nous avait dit que jusqu'à maintenant, on pensait... Moi, je n'ai jamais cru que Poutine était une vraie menace pour l'Europe occidentale. Mais tout le monde pensait que la Russie était devenue une menace. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'Amérique est une menace, y compris pour l'Europe occidentale.
Alors, vous parliez des réactions, aussi bien de la communauté internationale que sur le plan intérieur. L'administration Biden, qui est tout de même toujours aux manettes jusqu'au 20 janvier... Là aussi, on ne l'a pas beaucoup entendu. Enfin, ou alors, est-ce que c'est concentré sur Donald Trump, le nouveau venu, et à nouveau...
Oui, mais que peut faire l'administration Biden ? Elle n'a pratiquement plus aucun pouvoir. Elle gère les affaires courantes, puisque quand même, en droit, si le droit existe encore, le futur président, c'est Donald Trump. Donc, l'administration Biden ne peut prendre aucune décision importante qui impliquerait l'avenir de la politique étrangère américaine. Mais quand même, on a vu qu'elle a décidé de donner le maximum d'aide militaire et financière à l'Ukraine, pour essayer d'anticiper le fait où peut-être l'aide s'arrêterait. Donc, il y a quand même eu une décision de prise de donner un maximum à l'Ukraine. Le secrétaire d'État, Anthony Blinken, a réagi sur les propos de Donald Trump en disant qu'il était hors de question que l'Amérique remette en cause le droit international. Donc, ce n'est pas très audible, vocable, comme on dit. Mais quand même, elle a pris ses distances. Mais en même temps, l'administration Biden est hors jeu. Enfin, elle appartient à un autre monde.
Alors, j'ai une question de politique intérieure américaine à vous poser, même si, présent, on a plein d'autres sujets que je voudrais évoquer. Nicole Nisotto, vous voyez une responsabilité des démocrates aujourd'hui dans la victoire de Donald Trump en novembre dernier ? J'ai presque envie de dire, était-ce raisonnable de la part de Joe Biden d'envisager un deuxième mandat ? Et est-ce que, on n'est pas aujourd'hui...
C'est difficile, évidemment, de trancher. Certainement, moi, je n'ai jamais compris comment on pouvait nommer candidat un vieil homme. qui non seulement, c'était pas son âge, c'était sa capacité physique et intellectuelle. Donc, je crois que le tort du Parti démocrate, c'est de n'avoir pas su susciter dans ses rangs des jeunes candidats, un peu comme Obama, c'était...
Ils ont été systématiquement étouffés.
Voilà. Et donc, entre Hillary Clinton et Kamala Harris, de n'avoir pas trouvé des... d'avoir suscité... des candidats potentiels. Et donc, ça, c'est une erreur, certainement. Et la deuxième erreur, c'est d'avoir, enfin, pour la campagne de Kamala Harris, c'est de n'avoir rien proposé, sauf la continuation du même. Et donc, de n'avoir pas compris que plus de la moitié des Américains ne voulaient plus de ce système. Ce qui me frappe dans la victoire de Donald Trump, c'est que plus de 73 millions d'Américains ont voté contre un système qui a fait la gloire et la fortune de l'Amérique. Ils ont voté contre la démocratie représentative et pour un espèce de populisme autoritaire, direct, technologique, enfin, voilà. Et donc ça, les démocrates ne l'ont pas compris. Alors, est-ce que ça suffit à expliquer leur échec ? Non, il y avait aussi l'inflation qui était terrible pour les citoyens de base américains. Donc, il y a aussi une démographie qui ne jouait pas en faveur des démocrates. Mais voilà, je pense qu'ils ont eu des torts, mais ils ne sont pas les seuls responsables. Je crois que plus fondamentalement, ce qui est intéressant, mais moi, je n'ai pas la réponse du tout, c'est... comment expliquer qu'une société qui a été fondée sur les valeurs du libéralisme économique, de la démocratie politique, de la représentativité des institutions et qui a été fondée sur ces trois piliers avec une prospérité et un succès fondamental, considérable, comment expliquer qu'une société en 20 ans change complètement et veut renoncer à ces systèmes? Et je crois que quand même, moi je ne veux pas passer pour... un dinosaure anti-mondialisation. Mais il y a quand même une absence de réflexion sur les conséquences à moyen et long terme de cette mondialisation économique dont on a toujours pensé qu'elle était une grande victoire du libéralisme économique à l'américaine, mais qui en fait est le début qui a été le fossoyeur du modèle américain. Je crois qu'il y a quelque chose à réfléchir sur ce plan-là.
Et qui a laissé beaucoup de gens sur le côté, carreau. Même Absolument. Si les classes moyennes et on pense notamment à la Chine, ont vraiment pu émerger, et puis des inégalités qui se creusent de plus en plus. Nicole Niesoto, on arrive à la fin, mais il nous reste 2 minutes et demie, fin de cette première partie. C'est l'occasion de parler un petit peu des Européens. On évoquait l'absence de réaction de la communauté internationale. Tout de même, quand on voit Donald Trump menacer les Européens ou insister pour qu'ils achètent plus d'armes, etc., on a quand même le sentiment que, du côté européen, il y a une volonté de se soumettre assez rapidement et presque avec anticipation aux desiderata du président Trump.
J'espère que vous avez tort. Mais effectivement, aujourd'hui, et moi qui militais pour l'Europe depuis toujours, quand on regarde les réactions des Européens, on est aussi effrayé que quand on regarde la folie des Américains. La présidente de la Commission n'a pas réagi. Il y a eu une déclaration de son porte-parole disant qu'il fallait respecter le droit international. La France et l'Allemagne ont réagi en disant je ne sais plus exactement les termes, mais bon, la même chose, mais dans une déclaration qui est passée pratiquement inaperçue. Mais en revanche, ce qui est étonnant, c'est que Mme von der Leyen, tout de suite après la nomination de l'élection de Donald Trump, avait fait cette déclaration étonnante en disant qu'on allait acheter davantage de gaz de schiste américain. Et Mme Christine Lagarde, qui est donc la patronne de la Banque Centrale Européenne, a fait cette déclaration incroyable aussi sur le fait qu'il fallait que les Européens achètent plus d'armements américains. Et donc, on y reviendra si vous voulez, mais il y a quand même quelque chose de pourri au royaume de l'Union Européenne.
Nicole Niesoto, on vous retrouve après le journal. À tout de suite.
Vous écoutez RFI, Géopolitique. Géopolitique, Marie-France Chatin.
Nicole Niesoto est notre invitée, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors et professeure émérite au CNAM. Son dernier ouvrage, Choisir l'avenir, 10 réponses sur le monde qui vient au CNRS édition. Nous parlons beaucoup de l'investiture à venir le 20 janvier prochain de Donald Trump et des conséquences de ce début, non pas de présidence, mais de la transition et de ce que nous en apprenons pour le reste du monde. On a terminé la première partie de l'émission sur l'Europe, Nicole Niesoto. On poursuit sur les questions européennes. Que peut faire l'Union européenne face à Trump ? La situation est plutôt délicate pour l'Europe qui ne veut pas se mettre à dos les États-Unis et qui se trouve très divisée face aux États-Unis. Est-ce qu'il y a une volonté, d'après vous, chez Donald Trump, de diviser l'Union européenne et de faire imploser
Je crois que pour Donald Trump, l'Union européenne, ça n'existe que comme un marché, comme un acteur économique qui est responsable d'un déficit de la balance commerciale américaine, pour lui, inacceptable. Donc le problème essentiel pour Donald Trump, c'est que les Européens, ça n'achète pas assez américain. C'est tout. Le vrai problème, c'est le déficit commercial américain. Et donc, je ne pense pas qu'il cherche à diviser les Européens. Je crois qu'il ne sait même pas quelle est l'aventure dans laquelle est engagée l'Union européenne. Mais ce qu'il veut, c'est qu'on achète plus. Et sinon, il nous met des droits de douane, il impose des droits de douane. Alors, face à cela, les Européens sont naturellement divisés. Déjà, ils le sont par définition, parce que si les Européens n'étaient pas divisés, il y aurait une Union européenne qui serait un seul gouvernement, etc. Mais les Européens sont divisés parce qu'ils doivent tenir en même temps deux objectifs contradictoires. Le premier objectif, c'est d'assurer leur sécurité éventuellement contre l'impérialisme russe, et pour ça ils ont besoin de l'Amérique dans le cadre de l'OTAN. Et deuxième objectif, c'est assurer leur prospérité contre les menaces de droits de douane américains, et pour ça ils ont besoin d'être un peu sympa avec les Américains. Et c'est totalement contradictoire. Et donc soit ils assurent leur sécurité et à ce moment-là, ils acceptent toutes les conditions que donne Donald Trump. Soit ils assurent leur prospérité et à ce moment-là, ils répliquent du tac au tac en disant « nous aussi, on va mettre des barrières douanières puisque c'est comme ça, c'est protectionniste contre protectionniste ». Au début, l'année dernière, en juillet, la Commission était plutôt sur cette optique du « œil pour œil, dent pour dent ». Et puis, quand on regarde l'évolution des choses, j'ai déjà dit, Madame von der Leyen est plutôt dans une optique de « on va se plier aux injonctions américaines ». La Banque centrale, alors qu'elle n'a aucune légitimité pour parler de cela, Madame Lagarde a dit qu'il fallait acheter plus d'armements américains. C'est-à-dire que ça n'est pas dans ses compétences, elle n'a rien à dire là-dessus. Et donc, ces deux responsables européennes n'ont qu'un objectif, c'est effectivement acheter davantage américains pour que Donald Trump voie la balance commerciale plus équilibrée et donc soit plus gentil avec les Européens et donc continue de défendre les Européens. On ne peut même pas appeler ça une stratégie politique, c'est une stratégie de court terme absolument utilitariste qui ne prend absolument pas en compte l'idée que l'Union européenne pourrait avoir des intérêts particuliers. C'est une vision parfaitement mercantiliste de l'Union européenne qui n'est pas celle, en tout cas qui n'est pas la vision majoritaire. Et donc là-dessus, effectivement, on a d'autres divisions, mais comment dire, l'opposition, enfin les Européens ont le choix entre trois stratégies, soit on accepte tout, soit on transige, on accepte, mais pas complètement, on négocie, c'est-à-dire moins de droits de douane, etc. Soit on s'oppose et on lui dit il y aura des mesures de rétorsion. Et après tout, la Chine, c'est un grand marché également. On a besoin du marché chinois. Donc, si vous nous fermez le marché américain, ce n'est pas le même, évidemment, que le marché chinois, mais on peut avoir des mesures de rétorsion. Et donc, sur ces trois stratégies-là, les Européens sont divisés. Mais moi, ce qui me rassure quand même un peu, c'est que les pays concernés, en particulier le Danemark, ont réagi, eux, très vigoureusement, et en particulier le roi du Danemark.
Avec le Groenland.
Oui, sur le Groenland, ce Frédéric, je ne sais plus quel est son numéro, pardonnez-moi. Je trouve qu'ils ont répondu de façon très subtile. Là, ils ont augmenté sur le blason royal. Il y avait un petit morceau du Groenland, une carte, petite carte du Groenland et une petite carte des îles Féroé qui appartiennent aussi au Danemark. Et depuis une semaine, sur le blason royal, ça a pris des proportions énormes. Le Groenland est presque plus grand que le Danemark. Donc ça, je trouve que c'est une réponse très appropriée. Et puis, le gouvernement danois a dit qu'il n'en était pas question, mais qu'il fallait discuter avec les Américains. Donc on voit bien que tout le monde est un peu embêté. Mais si on va jusqu'au bout, il ne faut pas exclure la possibilité d'une vraie rupture de l'OTAN non pas parce que l'Amérique déciderait d'en sortir, mais parce que les Européens se sentiraient menacés par l'Amérique dans l'OTAN. Et ça, c'est un scénario que personne n'a envisagé depuis la création de l'OTAN en 1949. Quand Donald Trump dit qu'il n'exclut pas d'utiliser la force pour prendre le Groenland, c'est ce qu'on appelle une menace militaire contre un pays de l'OTAN. C'est une menace militaire d'un pays de l'OTAN, l'Amérique, contre un autre pays de l'OTAN, le Danemark. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Le traité de l'OTAN est muet quand il y a une guerre interne entre deux membres de l'OTAN, comme la gréco-turque, par exemple. Mais c'est quand même la première fois que la possibilité est envisagée d'un recours à la force contre un pays allié. Donc je comprends que les Européens soient tétanisés. Leur réaction, c'est plutôt de dire « bon, c'est des paroles, il va revenir dans la... » On avait l'habitude de l'entendre dire des folies. Dans son première campagne électorale en 2016, il avait dit « mais c'est quoi ces histoires de deux Chines, Taïwan, etc. La Chine, on va réunir tout ça, il faut qu'une seule Chine. » Donc il avait dit des choses déjà complètement aberrantes. Mais là, le problème aussi, on n'en a pas parlé, mais le problème de la folie de Donald Trump, c'est qu'il est double. Il n'est pas tout seul à être au pouvoir, c'est lui et Elon Musk. Et c'est ce couple-là qui est en train de détruire l'ordre mondial. C'est qu'ils sont un peu deux clones sur des registres différents. Trump sur le registre géopolitique traditionnel, Elon Musk sur le registre technologique nouveau du 22e siècle. Et ensemble, c'est un couple infernal. C'est véritablement eux qui... C'est la collusion de ces deux folies qui est dangereuse.
Alors justement, certains estiment qu'entre Trump et Musk, Elon Musk, le plus imprévisible et turbulent serait Musk. Nicole Niesoto, vous partagez cela ?
Moi, je pense que pour l'instant, ils s'entendent très bien. Le premier, Donald Trump, pour remettre en cause le système mondial au bénéfice de l'Amérique. Et le deuxième, Elon Musk, pour remettre en cause les régulations mondiales et américaines au bénéfice d'Elon Musk. Et je crois que là, il y a une vraie complicité, le moins de règles possible pour les nouvelles technologies et le moins de contraintes possible pour la diplomatie américaine. Et donc cet objectif de dérégulation globale, qui est d'ailleurs le portefeuille que Trump a donné à Musk.
Tout à fait.
Déréguler l'Amérique, mais Musk va plus loin. Il veut déréguler l'ensemble du monde. C'est pour ça qu'il s'est attaqué tellement à Thierry Breton. Les deux ont une très grande complicité sur, vraiment, il n'y a pas d'autre mot, détruire le système. Alors, après que, dans l'évolution des choses, l'un fasse de l'ombre à l'autre et qu'il y ait une rivalité qui s'installe entre les deux, peut-être. Mais moi, je crois que leurs deux folies se complètent profondément sur le plan géopolitique et sur le plan technologique. Je ne crois pas qu'il y en ait un qui soit plus fou que l'autre ou plus dangereux que l'autre. Ce qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est que Elon Musk, sa particularité, c'est qu'au nom d'une liberté d'information totale, remet en cause la liberté. C'est ça le paradoxe. C'est au nom de la liberté d'information.
Trop de liberté qui tue la liberté.
Voilà, on supprime toutes les règles, etc., etc. Et ce pauvre Mark Zuckerberg, ce pauvre entre guillemets, est obligé de faire la même chose. Sinon, il va perdre des clients sur son
pauvre sens intellectuel,
ses réseaux sociaux. Et donc, je trouve que les deux ensemble se complètent bien, et en remettant en cause toutes les régulations de la liberté de parole, la liberté d'information, ce qui remet en cause, c'est la possibilité de définir ce qu'est la vérité. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité s'il n'y a plus de contrôle de l'information. Et en remettant en cause la vérité, c'est-à-dire un socle irréfutable de faits, eh bien, c'est les fondements de la démocratie qui sont remis en cause. C'est-à-dire, je crois que ces deux êtres sont profondément des dictateurs en puissance beaucoup plus dangereux que Poutine et Xi Jinping. Moi, je n'exclus pas qu'un jour, on ait besoin de Xi Jinping et de Poutine pour les calmer. Il ne faut jamais oublier que Elon Musk n'est pas un scientifique, contrairement à ce qu'on croit avec ses fusées, etc. C'est un businessman. dans son parcours universitaire que j'ai vérifié, il n'y a aucune étude scientifique, donc il ne sait pas ce que c'est que la vérité scientifique. Et donc, je crois que là, il y a quelque chose de très grave qui se joue et que la folie des deux se complète bien.
Et en tout cas, on le voit, Elon Musk, finalement devenu acteur géopolitique. Hein, et oui. On l'a dit, dans deux mois, même pas, dans quelques semaines, il sera le personnage clé de la future administration Trump. Alors, on l'a vu faire des ingérences, afficher son soutien à l'extrême droite allemande avant les élections, également critiquer, voire attaquer le Premier ministre anglais, ce qui peut peut-être laisser envisager la fin de la relation privilégiée entre les États-Unis et les Royaumes-Unis. Et on a entendu Emmanuel Macron accuser Elon Musk de soutenir une nouvelle internationale réactionnaire. Vous avez quelque chose à ajouter par rapport à tout ça, tous ces éléments ?
Je trouve que non seulement le président Macron a raison, mais qu'il est trop tendre. Ce n'est pas une internationale réactionnaire. C'est, je crois que les Américains, enfin, que Trump et Musk ensemble veulent être les patrons du monde, mais les patrons au sens commercial du terme. Et donc, ce n'est pas une internationale. Ils sont bien au-delà de ce que sont les dictateurs iraniens, chinois, Poutine, qui restent dans un cadre géopolitique classique. Eux, ils sont des... Alors, le mot dictateur ne va pas, mais ils sont dans un cadre global. C'est non seulement la dictature politique, mais technologique, mais commerciale, etc. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Il faut inventer des termes. La sémantique me manque. C'est une figure nouvelle, c'est même pas du fascisme, tout cela n'a aucun sens, mais c'est une figure nouvelle d'autoritarisme international qui vont rendre les autres palos.
Et du pouvoir de l'argent, c'est quand même important à propos d'Elon Musk, qui est l'homme le plus riche de la planète et qui travaille dans des secteurs qui lui donnent accès à tous les grands de ce monde.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
J'aimerais qu'on dise quelques mots de la Pologne que j'ai évoquée en introduction, puisque la Pologne a pris la présidence de l'Union européenne le 1er janvier. C'est donc à elle que revient la tâche de tenter de nouer des relations avec le nouveau locataire de la Maison-Blanche. Une lourde tâche, on l'a dit, sur fond de guerre d'Ukraine. Comment vous voyez les choses, Nicole Niesoto ?
Moi, je pense que heureusement qu'on a la Pologne en présidence. Parce que.
Après le Hongrois.
Oui. Mais même, je trouve que la Pologne, aujourd'hui, est presque face à un destin incroyable. D'abord, elle est dirigée par un homme, Donald Tusk, qui est un homme politique formidable. Il faut se souvenir qu'en 2016, quand Donald Trump a été élu pour la première fois, à l'époque, il était président du Conseil européen. Il avait eu cette phrase prémonitoire. Il avait dit, avec des alliés comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Donc, c'est un homme qui comprend le monde, qui comprend Trump, qui connaît bien les rouages de la machine européenne. Et c'est quelqu'un qui, véritablement, sera 100% investi dans ce semestre européen. Simplement, pour la Pologne, la difficulté, c'est que Donald Tusk va être écartelé entre trois convictions. Sa conviction atlantique, d'une part, c'est un vrai Polonais, c'est-à-dire il pense que la relation entre la Pologne ou l'Europe et les États-Unis est existentielle, qu'on a vraiment besoin de l'Amérique. Mais en même temps, c'est un vrai démocrate. Il lutte contre l'extrême droite populiste dans son propre pays, incarné dans le PiS, qui a été au pouvoir pendant 10 ans, juste avant lui. Et donc, c'est un vrai démocrate. Et en même temps, c'est un vrai Européen. Il veut vraiment que l'Europe s'affirme petit à petit sur la scène internationale. Sauf que ces trois objectifs sont contradictoires. Si vous êtes très atlantiste, ben peut-être qu'il faudrait mettre un bémol sur votre conviction démocratique, parce que Trump n'est pas un démocrate. Si vous êtes très européen, peut-être qu'il faut être moins atlantique. Donc il est pétri de contradictions, j'allais dire, et je pense que c'est vraiment un homme politique qu'il faut aider, qu'il faut soutenir. Il a eu cette bonne idée de proposer avec Antonio Costa, le nouveau président du Conseil européen, celui qui l'a remplacé d'ailleurs. Donc tous les deux ont décidé de convoquer fin février un conseil informel des chefs d'État et de gouvernement européens sur les questions géopolitiques. Donc c'est une très bonne idée. Malheureusement, c'est fin février. Moi, je souhaiterais que cette... je ne pense pas qu'on peut l'avancer, mais il aurait fallu pratiquement...
Avant la prise de fonction de Donald Trump.
C'est un sommet dans lequel, à la fois, je ne sais pas qui a décidé, mais le Premier ministre britannique est invité pour la conversation générale. S'il y a des c'est un sommet informel, donc il peut être là. Donc ça, je trouve que c'est une très bonne idée. Est-ce que ça interviendra trop tard? J'espère que non, mais on voit bien qu'en tout cas, et Donald Trump et Antonio Costa ont pris la mesure du nouveau monde. Et le président du Conseil, Antonio Costa, avait déjà déclaré que lui, le Conseil européen, il en a marre, il ne veut pas s'occuper des parenthèses et des choses comme ça. On veut réfléchir au monde. Et donc, je trouve, là, il y a un élément d'optimisme.
Alors, l'Ukraine. Trump veut faire la paix au Proche-Orient et en Ukraine. Là aussi, comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que, d'après vous, Poutine est prêt à accorder une paix à Donald Trump et à quel prix pour les Ukrainiens, Nicole Niesoto?
Mais je ne sais pas si la question se pose encore comme ça. Je ne sais pas ce que veut dire Donald Trump. Je pense que lui-même change d'avis très vite et très régulièrement. Et donc, du côté américain, je crois qu'on est dans une très grande incertitude parce que, après tout, si, entre guillemets, il prend le Groenland, il pourrait accepter, entre guillemets, que Poutine prenne n'importe quoi en Europe qui lui conviendrait. Il y a quand même plein de pays qui sont des anciennes républiques de l'ex-Union soviétique. Donc, sa proposition d'il y a 2 mois de faire la paix en 24 heures, est-ce que ça tient toujours? Je ne sais pas. Ce qui est clair, en tout cas, c'est que Poutine est plutôt dans une position d'attente. Je trouve que les déclarations venant de Russie sont minimales en ce moment. Ils attendent voir, ils attendent que Trump soit effectivement au pouvoir. Et entre-temps, ils essayent d'engranger le maximum de gains sur le terrain, ce qui est la base de toute négociation. Avant négociation, on essaye d'avoir le rapport de force le plus favorable possible sur le terrain. Pour les Ukrainiens, l'avenir est sombre dans tous les cas. Soit il y a un compromis, un accord de paix, et on voit bien que l'objectif d'il y a 2 ans, ce qui était de rétablir l'Ukraine dans ses frontières d'avant 93, je crois, cet objectif est abandonné par tout le monde, y compris par notre président de la République, mais je crois avec raison, il faut être réaliste à un moment donné. On ne voit pas comment l'Ukraine pourrait reprendre la Crimée, par exemple. Bon. S'il y a un accord de paix, il y aura forcément des abandons territoriaux que l'Ukraine devra consentir. Mais je pense que le président Zelensky avait évoqué l'idée que ça pouvait être possible. Et si ça n'est pas le cas, si la guerre continue, la question est de savoir qui va continuer à financer l'effort de guerre ukrainien. Donc, il faut se réjouir là que l'administration Biden ait mis le paquet avant le 20 janvier. Les Européens vont de toute façon continuer à soutenir, mais sur quel rythme? Avec les Allemands, par exemple, deviennent assez frileux sur le plan de l'aide financière à l'Ukraine. Donc, c'est vrai que pour les Ukrainiens, la période qui vient, plus l'hiver, le froid, est très sombre. Donc, je crois qu'il est impossible de définir des scénarios. Mais ce qui me paraît important, c'est que les Européens... deux choses me paraissent importantes. S'il y a une négociation, il faut vraiment que les Européens, je ne sais pas qui, soient à la table de négociation parce que l'Ukraine est un futur pays de l'Union européenne. Donc on ne peut pas accepter...
Si l'Union européenne existe toujours dans quelques années.
Oui, oui, il y aura toujours, je pense, quelque chose. Mais en tout cas, on ne peut pas accepter qu'un de nos membres soit l'objet d'une négociation entre deux superpuissances et sans notre accord. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est de maintenir pour l'Ukraine, pour la négociation de l'Ukraine, nos principes démocratiques, c'est-à-dire le droit international, le respect des frontières, même s'il y a des concessions territoriales. Si quelqu'un doit défendre le droit international aujourd'hui et le monde que Trump veut détruire, c'est l'Europe, ça ne peut pas être personne d'autre.
Merci Nicole Niesoto. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de l'Institut Jacques Delors et professeure émérite au CNAM. Et votre dernier livre, Choisir l'avenir, 10 réponses sur le monde qui vient au CNRS édition géopolitique, était signé Marie-France Chatin avec Mathias Gauchani à la réalisation et Cécile Lavolo. Vous êtes bien sur RFI, place au Journal Afrique.